Chapitre 14. On s'était pourvu de logements à la hâte, et la troupe se trouvait par là fort dispersée. Wilhelm avait pris en affection le pavillon du jardin, auprès duquel il avait passé la nuit. Il en obtint facilement la clef et s'y établit. Et, comme Aurélie était fort à l'étroit dans sa nouvelle demeure, il garda Félix auprès de lui. Mignon ne voulut pas se séparer du petit garçon. Les enfants avaient une jolie chambre au premier étage. Wilhelm occupait la salle du rez-de-chaussée. Félix et Mignon s'endormirent, mais lui, il ne put trouver le sommeil. À côté de l'agréable jardin, que la pleine lune à son lever éclairait magnifiquement, il contemplait les tristes ruines, d'où s'élevaient encore quelques fumées. L'air était doux et la nuit admirablement belle. À la sortie du théâtre, Philine l'avait légèrement pressé du coude et lui avait chuchoté quelques mots qu'il n'avait pas compris. Il était troublé et mécontent et ne savait ce qu'il devait attendre ou faire. Philine l'avait évité pendant quelques jours et c'était la première fois qu'elle lui redonnait un signe d'intelligence. Hélas, elle était brûlée maintenant, la porte qu'il ne devait pas fermer, et les pantoufles s'étaient envolées en fumée. Comment la belle viendrait dans le jardin, si tel était son projet, il ne le savait point. Il ne désirait pas la voir, et pourtant, il se serait bien volontiers expliqué avec elle. Mais ce qui lui pesait bien plus sur le cœur, c'était le sort du joueur de harpe, car on ne l'avait pas revu. Wilhelm craignait qu'en déblayant la place, on ne le trouvât mort sous les décombres. Il avait caché à tout le monde les soupçons qu'il avait que le vieillard ne fût l'auteur de l'incendie, car c'était lui qu'il avait vu descendre le premier du grenier, déjà plein de flammes et de fumée, et son désespoir, dans la galerie voûtée, semblait être la suite d'un si malheureux événement. Cependant, les recherches que la police avait faites sur le champ avaient rendu très vraisemblable l'idée que ce n'était pas dans la maison qu'ils habitaient, mais dans la troisième plus loin que l'incendie avait éclaté, et s'était aussitôt répandu sous les toitures. Wilhelm rêvait à ces choses, assis sous un berceau, lorsqu'il entendit quelqu'un se glisser dans une allée voisine. À de tristes accents qui se firent entendre dans l'instant même, il reconnut le joueur de harpe. Le chant, qu'il put très bien saisir, exprimait la consolation d'un malheureux qui se sent tout près de la folie. Il est à regretter que Wilhelm n'en ait retenu que la dernière strophe. « Je me glisserai de porte en porte, je me présenterai, silencieux et modeste. » Une main pieuse me donnera la nourriture et je passerai plus loin. Chacun se trouvera heureux quand il me verra paraître. Une larme tombera de ses yeux et je ne saurai pas pourquoi il pleure. » À ces derniers mots, il était arrivé vers la porte du jardin qui donnait sur une rue écartée. La trouvant fermée, il voulut franchir le mur en grimpant aux espaliers. Mais Wilhelm le retint et lui parla avec bonté. Le vieillard le pria d'ouvrir la porte parce qu'il voulait et devait fuir. Notre ami lui représenta qu'il pourrait bien sortir du jardin, mais non de la ville, et lui montra combien il se rendrait suspect par une semblable démarche. Peine inutile. Le vieillard persistait dans sa résolution. Wilhelm ne lui céda point, et finit par l'entraîner, avec une certaine violence, dans le pavillon, où ils eurent ensemble un entretien bizarre que nous passerons sous silence, afin de ne pas fatiguer nos lecteurs par des idées incohérentes et des impressions pénibles. Chapitre 15. Tandis que Wilhelm ne savait que résoudre au sujet du malheureux vieillard, qui donnait des marques si évidentes de folie, Laerte vint, le matin même, le tirer d'embarras. Fidèle à sa vieille habitude de se trouver partout, il avait vu au café un homme qui avait éprouvé, quelque temps auparavant, les plus violents accès de mélancolie. on l'avait remis à un pasteur de campagne qui se vouait particulièrement à traiter ce genre de maladie. Cette fois encore, il avait bien réussi. Il était alors en ville, où la famille du malade guéri lui faisait la plus honorable réception. Wilhelm courut à sa recherche, et l'ayant trouvé, il lui exposa le cas, et se mit d'accord avec lui. On sut inventer un prétexte pour lui remettre le malade. Ce fut pour Wilhelm une séparation très douloureuse. Que l'espérance de voir le vieillard rétabli pût seul lui rendre un peu supportable. Tant il était accoutumé à le voir autour de lui, à entendre ses accents inspirés et touchants. La harpe avait été brûlée, on en trouva une autre, qu'on lui donna pour le voyage. Le feu avait aussi consumé la petite garde-robe de Mignon, et lorsqu'on voulut la pourvoir de quelques vêtements nouveaux, Aurélie proposa de lui faire porter enfin des habits de femme. Mignon s'y refusa obstinément. Elle demanda, avec une grande vivacité, de conserver son habillement ordinaire, et il fallut céder à son désir. La troupe eut à peine le temps de se reconnaître. Les représentations suivirent leur cours. Wilhelm écoutait souvent ce qu'on disait dans le public, mais il entendait rarement ce qu'il aurait voulu entendre, et souvent, au contraire, des choses qui l'affligeaient ou le blessaient. Ainsi, par exemple, aussitôt après la première représentation d'Hamlet, un jeune homme parlait, avec une grande vivacité, du plaisir qu'il avait eu ce soir-là au spectacle. Wilhelm prêta l'oreille, et il entendit le jeune sot se vanter d'avoir gardé son chapeau sur la tête, en dépit de ceux qui étaient derrière lui, et d'avoir persisté pendant toute la pièce. Glorieux exploit qu'il se rappelait avec le plus grand plaisir. Un autre assura que Wilhelm avait fort bien joué le rôle de Laerte, mais qu'on ne pouvait être aussi content de l'acteur qui avait rempli celui d'Hamlet. Cette confusion n'avait rien de fort étrange, car Wilhelm et Laerte n'étaient pas sans avoir entre eux quelques ressemblances. Un troisième loua son jeu, surtout dans la scène avec sa mère, et regrettait seulement que dans cette situation terrible, un cordon blanc se fût échappé de son pourpoint, ce qui avait nui considérablement à l'illusion. Il s'était fait chez les comédiens plusieurs changements. Depuis la soirée qui avait suivi l'incendie, Philine n'avait pas laissé voir à Wilhelm le moindre désir de se rapprocher de lui. Il semblait qu'elle eût pris à dessein un logement éloigné. Elle s'était liée avec Elmire et venait plus rarement chez Serlo, à la grande satisfaction d'Aurélie. Serlo, qui lui était toujours attaché, lui faisait quelques visites, surtout parce qu'il espérait trouver Elmire chez elle. Un soir, il prit Wilhelm avec lui. Comme ils entraient, ils furent bien surpris de voir Philine au fond de la seconde chambre, dans les bras d'un jeune officier, en uniforme rouge et pantalon blanc, mais dont ils ne purent voir le visage. Philine courut au-devant de ses amis dans le vestibule et ferma la porte de la chambre. « Vous me surprenez, » dit-elle, « au milieu d'une merveilleuse aventure. »« Pas si merveilleuse, » dit Serlo. « Faites-nous connaître ce beau jeune ami si digne d'envie. Vous nous avez si bien formés tous deux que nous n'oserions pas être jaloux. » « Je veux vous laisser quelque temps ce soupçon, » dit-elle en riant. « Mais je puis vous assurer que cette personne est une bonne amie qui veut passer quelques jours chez moi sans être connue. Vous apprendrez son sort plus tard. Peut-être même ferez-vous la connaissance de cette intéressante jeune fille. » Et j'aurai lieu sans doute de mettre alors en pratique ma complaisance et ma modestie. Car je crains, messieurs, que cette nouvelle connaissance ne vous fasse oublier votre ancienne amie. Wilhelm était pétrifié. Dès le premier coup d'œil, l'uniforme rouge lui avait rappelé le costume sous lequel il aimait tant avoir sa chère Marianne. C'était sa tournure, c'était ses cheveux blonds. Seulement, l'officier lui semblait être un peu plus grand. « Au nom du ciel ! S'écria-t-il, faites-nous mieux connaître votre amie. Laissez-nous voir cette jeune personne déguisée. Nous voilà dans le secret. Nous vous promettons, nous vous jurons de le garder. Mais laissez-nous voir cette jeune fille. » Comme il s'enflamme! Calmez-vous! Patience, vous ne saurez rien aujourd'hui. Eh bien, dites-nous seulement son nom. Ce serait alors un beau secret. Du moins, le prénom. Soit, si vous le devinez, je vous le donne en trois, mais pas plus. Autrement, vous me feriez passer en revue tout le calendrier. Bien. Cécile, peut-être? Point de Cécile. Henriette? Nenny. Prenez garde, il faudra que votre curiosité se passe. Wilhelm hésitait et tremblait. Il voulait ouvrir la bouche et la voix lui manquait. « Marianne ? » dit-il enfin en balbutiant. « Marianne ? Bravo, c'est trouvé !» s'écria Philine en faisant, suivant sa coutume, une pirouette. Wilhelm ne pouvait articuler une parole, et Serlot, qui ne remarquait pas son émotion, pressait toujours Philine de leur ouvrir la porte. Mais combien ne furent-ils pas surpris tous deux, quand Wilhelm interrompit brusquement leur badinage et se jeta aux pieds de Philine, la priant et la conjurant avec la plus vive éloquence de la passion. « Souffrez que je la voie, disait-il. Elle est à moi, c'est ma chère Marianne, elle, après qui j'ai soupiré tous les jours de ma vie. Elle, qui est encore pour moi la première, l'unique entre les femmes. Retournez du moins auprès d'elle. Dites-lui que je suis ici, qu'il est ici, l'homme qui lui avait voué son premier amour et tout le bonheur de sa jeunesse. Il veut se justifier de l'avoir quitté durement. Il veut lui demander pardon. Il lui pardonnera les torts qu'elle eut peut-être aussi à son égard. » Il consent même à ne plus rien prétendre d'elle, pourvu qu'il puisse la voir encore une fois, qu'il puisse s'assurer qu'elle vit et qu'elle est heureuse. Philine secoua la tête et dit « Mon ami, parlez bas, ne nous abusons point, et si cette jeune femme est réellement votre amie, épargnons-la, car elle ne s'attend point à vous voir ici. Ce sont de toutes autres affaires qui l'ont amenée. Et vous savez bien que souvent on aimerait mieux voir un spectre que de rencontrer mal à propos un ancien amant. Je veux la questionner, je veux la préparer, et nous réfléchirons sur le parti qu'il faudra prendre. Je vous dirai demain, par un billet, si vous pouvez venir et à quelle heure. Obéissez-moi ponctuellement, car je jure que nul ne verra cette aimable personne contre sa volonté et la mienne. Je tiendrai mes portes mieux fermées. Et sans doute vous ne songez pas à me faire visite la hache à la main. » Wilhelm la conjura, Serlot l'exhorta. Tout fut inutile. Les deux amis finirent par céder et sortirent de la chambre et de la maison. Chacun pense bien que Wilhelm dut passer une nuit fort agitée, et que le lendemain, les heures lui parurent fort longues en attendant le billet de Philine. Par malheur, il devait jouer ce soir-là. Il n'avait jamais tant souffert. La pièce finie, il courut chez Philine, sans demander seulement s'il était invité. Il trouva sa porte fermée, et les gens de la maison lui dirent que mademoiselle était partie de bonne heure avec un jeune officier. Elle avait dit, il est vrai, qu'elle reviendrait dans quelques jours, mais on n'en croyait rien, parce qu'elle avait tout payé et qu'elle avait emporté ses effets. À cette nouvelle, Wilhelm ne se posséda plus. Il courut chez Laerte et lui proposa de la poursuivre et de savoir à tout prix la vérité sur son compagnon de voyage. Laerte reprocha à son ami sa passion et sa crédulité. « Je gage, lui dit-il, que cet officier n'est autre que Frédéric. Ce jeune homme est de bonne maison, je le sais fort bien. Il est amoureux fou de Philine. » Et il aura probablement tiré assez d'argent de sa famille pour vivre de nouveau quelque temps avec la belle. Ces réflexions ne persuadaient pas Wilhelm, mais le faisaient balancer. Laerte lui représenta combien était invraisemblable l'histoire que Philine leur avait débitée, que la figure et les cheveux étaient parfaitement ceux de Frédéric, que les fugitifs ayant 12 heures d'avance, il ne serait pas facile de les atteindre. « Enfin, ajouta-t-il, Serlot ne peut se passer ni de vous ni de moi pour son spectacle. » Par tous ces motifs, Wilhelm fut du moins détourné de se mettre lui-même en chemin. Laerte sut trouver, cette même nuit, l'homme qu'il fallait pour cette commission. Il était d'un caractère posé, il avait souvent accompagné, en qualité de guide et de courrier, des voyageurs de distinction, et se trouvait alors sans emploi. On lui donna de l'argent, on l'instruisit de toute l'affaire, et on le chargea de rechercher et d'atteindre les fugitifs, puis de les suivre des yeux et d'informer aussitôt les deux amis du lieu et de l'état où il les aurait trouvés. L'homme monta à cheval à l'heure même et courut sur les traces du couple équivoque. Ces dispositions rendirent du moins à Wilhelm quelque tranquillité. Chapitre 16. L'absence de Philine ne fit grande sensation ni dans la troupe ni dans le public. Elle montrait en toute chose peu d'application. Les femmes la haïssaient généralement. Les hommes auraient mieux aimé la voir dans le tête-à-tête que sur le théâtre. Et par là, son beau talent et les dons heureux qu'elle avait pour la scène étaient perdus. Les autres membres de la troupe firent de nouveaux efforts. Madame Mélina surtout se distingua par son zèle et son attention. Elle se forma, comme auparavant, sur les maximes de Wilhelm, se régla sur sa théorie et son exemple, et ses manières offrirent dès lors un charme indéfinissable qui la rendait plus intéressante. Bientôt son jeu devint juste. Il prit tout à fait le ton naturel de la conversation, et jusqu'à un certain point, celui du sentiment. Elle sut se mettre dans les bonnes grâces de Serlot. Pour lui complaire, elle apprit à chanter et fit bientôt assez de progrès pour posséder un talent de société. L'arrivée de quelques nouveaux acteurs rendit la troupe plus complète. Et, comme Wilhelm et Serlot agissaient, chacun à sa manière, Wilhelm en insistant dans chaque pièce sur la pensée et le ton de l'ensemble, Serlot en travaillant les détails avec un soin consciencieux, un zèle louable anima les acteurs eux-mêmes et le public leur témoigna un vif intérêt. « Nous sommes sur une bonne voie, » dit un jour Serlot, « et si nous continuons de la sorte, le public y sera bientôt comme nous. Il est très facile d'égarer les hommes par des spectacles insensés et malséants. Mais qu'on leur expose la décence et la raison d'une manière intéressante, elles les captiveront certainement. » Le principal défaut de notre scène, et auquel ne songent ni les acteurs ni les spectateurs, c'est qu'en général elle présente une trop grande bigarrure, et qu'on n'y trouve nulle part de limite à laquelle on puisse arrêter son jugement. Il ne me semble point que ce soit un avantage pour nous d'avoir développé notre théâtre jusqu'à en faire une représentation infinie de la nature. Cependant, ni directeur ni comédien ne peuvent maintenant se réduire à des bornes plus étroites. Il faut attendre le moment où, peut-être, le goût de la nation aura tracé lui-même les justes limites. Toute bonne société n'existe que sous certaines conditions, et il en est de même d'un bon théâtre. Il est des manières et des expressions, des objets et des façons d'agir qui doivent être exclus. On n'en devient pas plus pauvre pour mettre en ordre sa maison. Ils étaient là-dessus plus ou moins d'accord, plus ou moins divisés. Wilhelm et le grand nombre tenaient pour le théâtre anglais. Serlot et quelques autres pour le théâtre français. Pour occuper les heures de loisir, dont un comédien a toujours abondance, on convint de lire en commun les plus célèbres pièces des deux théâtres et d'observer ce qu'on y trouverait de meilleur et d'imitable. On commença par lire quelques pièces françaises. Aurélie s'éloignait chaque fois, aussitôt que la lecture commençait. D'abord on la crut malade, Mais un jour, Willem, que la chose avait surpris, lui en demanda la raison. « Je n'assisterai à aucune de ces lectures, » lui dit-elle. « Comment pourrais-je écouter et juger quand mon cœur est brisé ? Je hais la langue française de toute mon âme. » « Comment peut-on, dit Wilhelm, être l'ennemi d'une langue à laquelle on doit la plus grande partie de sa propre culture et à laquelle nous aurons bien des obligations encore avant que notre caractère soit formé ?»« Ce n'est pas un préjugé, répondit Aurélie. Une impression funeste, un odieux souvenir de mon infidèle ami m'a ôté le goût de cette langue si belle et si parfaite. Comme je la hais maintenant de tout mon cœur. Pendant le temps de notre douce liaison, il m'écrivit en allemand. Et quel allemand sincère, énergique et vrai! Mais lorsqu'il voulut se détacher de moi, il se mit à m'écrire en français, ce qu'il avait fait quelquefois auparavant, mais seulement par plaisanterie. Je sentis, je compris ce que cela m'annonçait. Ce qu'il rougissait de me dire dans sa langue maternelle, il pouvait l'écrire en sûreté de conscience. C'est une langue admirable pour les réserves, les réticences et le mensonge. C'est une langue perfide. Je ne trouve, Dieu soit loué, aucun mot allemand pour rendre perfide dans toute son étendue. Notre misérable Tréoulos n'est auprès qu'un innocent enfant. Perfide manque de foi avec jouissance, avec orgueil, avec une maligne joie. Oh, quelle est digne d'envie la civilisation d'un peuple qui peut exprimer en un seul mot de si délicates nuances. Le français est vraiment la langue du monde, digne d'être la langue universelle, afin que tous les hommes se puissent abuser et trahir à leur aise les uns les autres. Les lettres qu'il m'écrivait en français étaient encore agréables à lire. Si l'on voulait se faire illusion, on pouvait y trouver de la chaleur et même de la passion. Mais, considérées de près, ce n'était que des phrases maudites. Il a détruit chez moi toute espèce de goût pour la langue, pour la littérature française, et même pour les belles et précieuses pensées que de nobles âmes ont exprimées en cette langue. Je frissonne dès que j'entends un mot de français. » Elle pouvait continuer ainsi, durant des heures, à témoigner son mécontentement, au point d'interrompre ou de troubler toute autre conversation. Tôt ou tard, Serlot mettait fin, avec quelque amertume, à ses capricieux discours. Mais d'ordinaire, on ne pouvait plus, de toute la soirée, renouer l'entretien. En général, et une triste expérience le prouve, tout ce qui doit être produit par un concours d'hommes et de circonstances ne saurait subsister longtemps sans altération. On peut d'ordinaire indiquer le moment où une troupe de comédiens, aussi bien qu'un empire, un cercle d'amis ou une armée, est parvenu au plus haut degré de perfection, de bon accord, de contentement et d'activité. Tout à coup, le personnel vient à changer, de nouveaux membres arrivent, les personnes ne conviennent plus aux circonstances, les circonstances aux personnes. Tout change, et ce qui était uni auparavant se disperse et se sépare bientôt. On pouvait dire que la troupe de Serlot fut quelque temps aussi parfaite qu'aucune troupe allemande avait pu se vanter de l'être. La plupart des comédiens étaient à leur place. Tous étaient assez occupés et tous faisaient avec plaisir ce qu'ils avaient à faire. Leur rapport mutuel était assez bon et chacun d'eux semblait donner de grandes espérances parce que chacun faisait les premiers pas avec ardeur et allégresse. Toutefois, on reconnut bientôt que plusieurs n'étaient que des automates, qui ne pouvaient atteindre jusqu'au point où l'on ne parvient pas sans le secours du sentiment. Bientôt intervinrent les passions, ennemies ordinaires de toute bonne institution, et qui désorganisent si aisément ce que des hommes sages et bien pensants voudraient maintenir. Le départ de Philine n'était pas aussi insignifiant qu'on l'avait cru d'abord. Elle avait su, avec beaucoup d'adresse, amuser Serlot et charmait plus ou moins les autres artistes. Elle souffrait les vivacités d'Aurélie avec une grande patience, et son occupation principale était de caresser l'amour-propre de Wilhelm. Elle avait été pour la troupe une sorte de lien, et l'on devait bientôt sentir sa perte. Serlo ne pouvait vivre sans une intrigue d'amour. Elmire, qui s'était développée en peu de temps et qu'on pouvait même appeler une belle personne, avait fixé son attention. Et Philine fut assez habile pour favoriser cette passion qu'elle avait remarquée. « Il faut, disait-elle souvent, s'accoutumer de bonne heure à favoriser les amours d'autrui. C'est tout ce qui nous reste à faire quand nous vieillissons. » Par son entremise, Serlo et Elmire s'étaient assez rapprochés pour s'entendre fort bien après le départ de Philine. Et ce petit roman les intéressait d'autant plus tous deux qu'ils avaient toutes les raisons du monde de le cacher au vieux bourru, qui n'aurait pas entendu raillerie sur de pareils désordres. La sœur d'Elmire était dans le secret, et Serlo devait passer aux deux jeunes filles beaucoup de choses. Un de leurs plus grands défauts était une excessive friandise, et même, si l'on veut, une insupportable gloutonnerie, en quoi elle ne ressemblait nullement à Philine, qui empruntait un nouveau charme à ce qu'elle vivait de l'air, pour ainsi dire, mangeait fort peu, et sablait seulement, avec une grâce parfaite, l'écume d'un verre de champagne. Maintenant, lorsque Serlo voulait fêter sa belle, il lui fallait unir le déjeuner avec le dîner, qu'un goûter devait enchaîner encore avec le souper. D'ailleurs, Serlo avait un plan dont l'exécution le préoccupait. Il croyait remarquer chez Wilhelm et Aurélie une affection mutuelle, et il désirait fort qu'elle pût devenir sérieuse. Il espérait mettre à la charge de Wilhelm toute la partie matérielle de l'administration théâtrale, et trouver en lui, comme dans son premier beau-frère, un instrument actif et fidèle. Déjà, il lui avait remis insensiblement la plus grande partie des détails. Aurélie tenait la caisse, et comme autrefois, Serlo vivait tout à fait selon ses goûts. Cependant, il avait, ainsi que sa sœur, un chagrin secret. Le public a une façon d'agir particulière avec les hommes d'un mérite reconnu qui se présentent devant lui. Il se refroidit par degrés à leur égard et favorise des talents très inférieurs, mais nouveaux. Il est avec les premiers d'une exigence outrée et trouve tout charme chez les autres. Serlo et Aurélie eurent assez d'occasion d'en faire la remarque. Les nouveaux venus, surtout ceux qui avaient de la jeunesse et de la beauté, fixaient toute l'attention, attiraient tous les applaudissements. Et le plus souvent, le frère et la sœur devaient, après avoir déployé le plus grand zèle, se retirer sans être salués d'aucun battement de main. Sans doute cela tenait aussi à des causes particulières. L'orgueil d'Aurélie sautait aux yeux, et beaucoup de gens connaissaient son dédain pour le public. Serlo flattait, il est vrai, chacun en particulier. Mais ses épigrammes sur la masse du peuple circulaient souvent et couraient de bouche en bouche. Les nouveaux acteurs, au contraire, étaient les uns étrangers et inconnus, les autres jeunes, aimables, sans appui, et tous avaient trouvé des partisans. Bientôt se manifestèrent aussi des dissensions intestines et divers mécontentements. Car, aussitôt qu'on se fut aperçu que Wilhelm s'était chargé des fonctions de régisseur, la plupart des comédiens se comportèrent fort mal, trouvant mauvais que Wilhelm, selon son caractère, voulût mettre un peu plus d'ordre et d'exactitude dans l'ensemble, et qu'il insista particulièrement pour que toute la partie matérielle fût, avant tout, ponctuellement et convenablement réglée. Ainsi, toute cette société, qui avait eu quelque temps une perfection presque idéale, devint aussi vulgaire que peut l'être une troupe quelconque de comédiens ambulants. Et, par malheur, au moment où Wilhelm, à force de travail, de peine et de persévérance, eut acquis toutes les connaissances nécessaires à sa profession et formé pour cela parfaitement sa personne, aussi bien que ses facultés, il crut enfin reconnaître, dans ses heures sombres, que ce métier valait moins que tout autre la dépense de force et de temps qu'il exigeait. Le travail était accablant et la récompense chétive. Il en aurait plus volontiers entrepris un autre, quel qu'il fût, qui, une fois achevé, permettrait de goûter la tranquillité d'esprit, plutôt que celui-là, dans lequel, après des fatigues matérielles, on ne peut atteindre encore le but de son activité que par les plus grands efforts de l'esprit et du sentiment. Il fallait écouter les doléances d'Aurélie sur la prodigalité de son frère, il fallait éviter de comprendre les insinuations de Serlot, qui cherchait à l'amener de loin à épouser sa sœur. Il avait encore à cacher le chagrin qui lui était le plus sensible. Le messager, envoyé à la recherche du mystérieux officier, ne revenait pas et ne donnait point de ses nouvelles. Et notre ami devait craindre d'avoir perdu Marianne pour la seconde fois. Dans ce même temps, un deuil public obligea de fermer le théâtre pour quelques semaines. Wilhelm saisit cet intervalle pour visiter le pasteur chez qui le joueur de harpe était en pension. Il le trouva dans une agréable contrée, et le premier objet qui s'offrit à ses yeux, dans le presbytère, fut le vieillard, qui donnait une leçon de harpe à un jeune garçon. Il témoigna beaucoup de joie de revoir Wilhelm, se leva et lui tendit la main en lui disant « Vous voyez que je suis encore bon à quelque chose en ce monde. Permettez-moi de continuer, car les heures sont réglées. » Le pasteur accueillit Wilhelm de la manière la plus amicale. Il lui apprit que le vieillard était déjà beaucoup mieux et qu'on pouvait espérer son complet rétablissement. L'entretien tomba naturellement sur la manière de traiter les aliénés et le pasteur s'exprima en ces termes. Abstraction faite des causes physiques, qui nous opposent souvent des difficultés insurmontables et sur lesquelles je prends les avis d'un sage médecin. Je trouve très simples les moyens de guérir la folie. Ce sont les mêmes par lesquels on empêche les hommes de bon sens de devenir fous. Que l'on excite leur activité personnelle, qu'on les accoutume à l'ordre, qu'on leur fasse voir que leur existence et leur sort sont les mêmes que ceux de beaucoup d'autres, qu'un talent extraordinaire, que le plus grand bonheur et le plus grand malheur ne sont que de légères déviations du cours ordinaire des choses. Alors, la folie ne trouvera chez eux aucun accès, et si elle existe, elle disparaîtra insensiblement. J'ai réglé les heures du vieillard. Il donne à quelques enfants des leçons de harpe. Il aide à travailler au jardin, et il a déjà beaucoup plus de sérénité. Il désire manger du chou qu'il plante. Il veut que mon fils, à qui, en cas de mort, il a donné sa harpe, devienne un bon musicien, afin d'être en état de s'en servir à son tour. Comme pasteur, je ne hasarde que peu d'observations sur ces étranges scrupules. Mais une vie active amène avec elle tant d'événements qu'il doit bientôt sentir que la seule activité peut lever toute espèce de doute. Je vais à l'œuvre doucement. Si je puis obtenir encore qu'il renonce à sa barbe et à sa longue robe, j'aurai beaucoup gagné, car il n'est rien qui nous dispose plus à la folie que de nous distinguer des autres, et rien ne maintient plus sûrement le sens commun que de vivre avec beaucoup de gens selon la règle commune. Et combien de choses, hélas, dans notre éducation et nos institutions civiles, ne sont-elles pas faites pour nous prédisposer, nous et nos enfants, à la folie? Wilhelm passa quelques jours chez cet homme sage et il apprit les choses les plus intéressantes, non seulement sur des personnes en délire, mais aussi sur d'autres que l'on a coutume de tenir pour sensés, même pour sages, et dont les singularités touchent de près à la démence. la conversation fut bien plus vive encore à l'arrivée du médecin, qui visitait souvent le pasteur, son ami, et le secondait dans ses charitables efforts. C'était un homme déjà vieux, qui, avec une santé débile, avait passé de longues années dans l'exercice des plus nobles devoirs. Il était grand ami de la vie champêtre et ne pouvait presque vivre qu'en plein air. D'ailleurs, il était, au plus haut degré, actif et sociable, et depuis plusieurs années, il aimait surtout à se lier avec les pasteurs de village. Il cherchait à seconder de toute manière ceux qu'il savait utilement occupés. Ceux qu'il voyait encore indécis, il s'efforçait de leur inspirer quelques goûts favoris. Et comme il était lié en même temps avec les gentilshommes, les baillis et les juges, il avait beaucoup contribué, sans bruit, dans l'espace de 20 années, au développement de plusieurs branches d'économie rurale. Il avait avancé tout ce qui est profitable aux campagnes, aux hommes et au bétail, et favorisé par ses soins la véritable civilisation. « Il n'est qu'un malheur pour l'homme, disait-il, c'est qu'il s'établisse dans son esprit quelque idée qui n'ait sur la vie active aucune influence, ou qui même le détourne de l'activité. J'en ai un exemple maintenant, poursuivit-il. Dans un couple riche et noble, auprès duquel mon art a été impuissant jusqu'à ce jour. Le cas est presque de votre domaine, cher pasteur, et ce jeune homme nous gardera le secret. En l'absence d'un homme de condition, on se permet, plaisanterie assez peu louable, de faire endosser à un jeune homme la robe de chambre du seigneur. Sa femme y devait être trompée, et, bien que l'on m'ait rapporté la chose comme un pur badinage, je crains fort que l'on ne voulût détourner du droit chemin l'aimable et noble dame. Le mari revient à l'improviste, entre dans sa chambre, croit se voir lui-même, et dès lors il est saisi d'une mélancolie dans laquelle il se nourrit de l'idée qu'il va bientôt mourir. Il se livre à des personnes qui s'insinuent auprès de lui avec des idées religieuses, et je ne vois pas comment on pourra le détourner d'entrer avec sa femme dans une confrérie de frères moraves, et empêcher que cet homme, qui est sans enfant, ne prive ses parents de la plus grande partie de sa fortune. « Avec sa femme ? » s'écria Wilhelm, saisi de frayeur à ce récit. « Et malheureusement, » poursuivit le médecin, qui n'avait vu dans l'exclamation de Wilhelm qu'un mouvement de charitable compassion. « Cette dame est la proie d'une douleur plus profonde encore, qui fait qu'elle se résigne sans peine à s'éloigner du monde. Ce même jeune homme prend congé d'elle, elle n'a pas la prudence de cacher une inclination naissante. Il s'enhardit, la serre dans ses bras, et presse violemment contre le sein de la dame le portrait de son mari, orné de brillants. Elle sent une vive douleur, qui peu à peu se dissipe, et laisse après elle une petite rougeur, dont il ne reste bientôt aucune trace. Comme homme, je suis persuadé qu'elle n'a rien de plus à se reprocher. Comme médecin, je suis sûr que cette pression n'aura aucune suite fâcheuse. Mais on ne peut lui ôter l'idée qu'il y ait là une dureté. Et lorsqu'on veut dissiper son illusion par l'attouchement, elle soutient qu'à la vérité, on ne sent rien dans ce moment. Mais elle s'est fermement imaginée que ce mal finira par un cancer. Ainsi, sa jeunesse, ses grâces, sont entièrement perdues pour le monde et pour elle. « Malheureux que je suis !» s'écria Wilhelm en se frappant le front, et il s'enfuit dans la campagne. Jamais encore il ne s'était trouvé dans un pareil état. Le pasteur et le médecin, extrêmement surpris d'une si étrange découverte, eurent assez de peine à le calmer le soir quand il revint, et s'accusa dans les termes les plus vifs en leur faisant l'aveu plus détaillé de ses événements. L'un et l'autre prirent à lui le plus grand intérêt, surtout lorsqu'il leur eut exposé sa situation tout entière, sous les noires couleurs que lui fournissait l'état présent de son âme. Le lendemain, le docteur ne se fit pas prier longtemps pour l'accompagner à la ville et, s'il était possible, venir au secours d'Aurélie, que son ami avait laissée dans une position alarmante. Ils la trouvèrent en effet plus mal qu'ils ne l'avaient supposé. Elle avait une sorte de fièvre intermittente qu'il était d'autant plus difficile de guérir que la malade, avec sa fougue naturelle, en prolongeait et redoublait à dessein les accès. L'étranger ne fut pas présenté comme docteur et se conduisit avec beaucoup de ménagements et de prudence. On parla de la santé et de l'état moral d'Aurélie, et le nouvel ami rapporta divers cas de personnes qui, atteintes d'une indisposition pareille, étaient néanmoins parvenues à un âge avancé. Cependant, rien n'était plus fâcheux en pareil cas que de renouveler à dessein les impressions violentes. Surtout, il ne cacha point qu'il avait trouvé très heureuses les personnes qui, dans un état maladif dont elles ne pouvaient se relever tout à fait, avaient été conduites au sentiment d'une véritable piété. Il dit ces choses avec beaucoup de réserve et par manière de récit, et promit de procurer à ses nouveaux amis la lecture très intéressante d'un manuscrit qu'il avait reçu des mains d'une excellente amie qui avait quitté ce monde. « Ces mémoires sont pour moi du plus grand prix, leur dit-il, et je vous confierai l'original. Le titre seul est de ma main. Confession d'une belle âme. » Le médecin donna encore, avec le plus grand soin, quelques avis particuliers à Wilhelm sur le traitement diététique et médical de l'infortunée et violente Aurélie. Il promit d'écrire, et même, s'il était possible, de revenir. En l'absence de Wilhelm, s'était préparé un changement qu'il ne pouvait soupçonner. Pendant le temps de sa régie, il avait procédé en tout avec assez de largeur et de libéralité. Il avait eu surtout la chose en vue et déployé toujours de l'élégance et de la richesse dans les habits, les décorations et tous les accessoires. Pour entretenir le zèle des comédiens, il avait flatté leur intérêt, ne pouvant avoir prise sur eux par de plus nobles motifs. Et il s'y trouvait d'autant plus autorisé que Serlot lui-même ne prétendait nullement au mérite d'un exact économe. Qu'il aimait à entendre vanter l'éclat de son théâtre, assez content, lorsque Aurélie, qui dirigeait toute l'administration financière, lui assurait que, tout frais payé, elle n'avait aucune dette, et lui remettait encore l'argent nécessaire de l'acquittement de celle qu'il avait pu contracter, par sa libéralité extraordinaire envers ses maîtresses, ou de toute autre façon. Mélina, qu'on avait chargée de la garde-robe, froid et dissimulé comme il l'était, avait observé les choses en silence, et, mettant à profit l'absence de Wilhelm, ainsi que l'état toujours plus grave d'Aurélie, il sut faire sentir à Serlot qu'on pouvait gagner davantage, dépenser moins, et mettre quelque chose en réserve, ou du moins se donner quelques jouissances de plus. Serlot prêta l'oreille volontiers, et Mélina osa produire son plan. « Je ne veux pas affirmer, dit-il, qu'aucun de nos comédiens ait de trop forts appointements. Ce sont des gens de mérite, et ils seraient partout bienvenus. Cependant, ils sont trop payés pour les recettes qu'ils nous procurent. Mon projet serait d'établir un opéra. Pour ce qui regarde le drame, vous êtes, je dois le dire, capable d'en monter un grand à vous seul. Ne voyez-vous pas qu'on méconnaît vos mérites? Sans que vos acteurs soient excellents, mais parce qu'ils sont assez bons, on ne rend plus aucune justice à vos talents extraordinaires. Prenez, comme autrefois, les premiers rôles. Engagez à bas prix des acteurs médiocres, mauvais même, formez la masse comme vous le faites si bien à la partie matérielle de l'art. Consacrez le reste à l'opéra, et vous verrez qu'avec la même peine et les mêmes frais, vous procurerez plus de plaisir et vous gagnerez beaucoup plus d'argent. » Serlot était trop flatté pour trouver quelque force aux objections qu'il aurait pu faire. il avoua sans peine à Mélina que sa passion pour la musique lui avait fait depuis longtemps désirer quelque chose de pareil. Mais il voyait bien que le goût du public en serait plus égaré que jamais, et que, par ce mélange d'un spectacle qui ne serait proprement ni l'opéra ni le drame, ce qui restait de goût pour les œuvres grandes et régulières serait complètement perdu. Mélina plaisanta avec assez peu de finesse sur l'idéal pédantesque de Wilhelm, sur sa prétention de former le public, au lieu de se laisser former par lui, et ils s'accordèrent tous deux à reconnaître qu'il s'agissait uniquement de s'enrichir ou de mener joyeuse vie, et laissèrent assez voir qu'ils seraient charmés d'être délivrés des personnes qui gêneraient leur plan. Mélina déplora, avec une douleur hypocrite, la faible santé d'Aurélie, qui ne lui promettait pas de longs jours. Serlo parut regretter que Wilhelm ne fût pas chanteur, et fit entendre par là qu'il cesserait bientôt de le croire indispensable. Mélina lui présenta toute une liste d'économies que l'on pourrait faire, et Serlo crut voir en lui un homme qui valait trois fois son beau-frère. Il sentait bien qu'il se devait le secret sur cette conversation, qui les rapprocha plus encore l'un de l'autre, et ils en prirent occasion de conférer en secret sur tout ce qui se passait, de blâmer ce qu'entreprenaient Wilhelm et Aurélie, et de travailler toujours davantage à leurs nouveaux projets. Quelques secrets qu'ils observassent sur leurs desseins, et si peu qu'ils se trahissent par leurs discours, ils n'étaient pas assez politiques pour cacher leurs sentiments dans leur conduite. Mélina s'opposa quelquefois à Wilhelm dans les affaires de son ressort, et Serlo, qui n'avait jamais été doux avec sa sœur, devint plus dur à mesure que la faiblesse d'Aurélie augmentait et que son exaltation fébrile aurait mérité plus de ménagement. Dans ces circonstances, on mit Emilia Galotti en répétition. Cette pièce fut très heureusement montée et, dans le cadre borné de cette tragédie, tous les acteurs purent déployer librement la variété de leur jeu. Serlo était à sa place dans le rôle de Marinelli. Odoardo fut très bien rendu. Madame Mélina joua la mère avec beaucoup d'intelligence. Elmire figura avec avantage dans le rôle d'Émilie. Laerte montra beaucoup de bienséance dans celui d'Appiani. Wilhelm avait passé des mois à étudier celui du prince. À cette occasion, il avait souvent examiné, soit par lui-même, soit avec Serlo et Aurélie, quelle différence il y avait entre les manières nobles et les manières distinguées, et jusqu'à quel point les premières devaient être comprises dans les secondes, mais non les secondes dans les premières. Serlo, qui représentait purement et sans caricature le courtisan Marinelli, exprima sur ce point quelques bonnes idées. « Les manières distinguées, disait-il, sont difficiles à imiter, parce qu'elles ont proprement un caractère négatif et qu'elles supposent une habitude longue et soutenue. Il ne faut point prendre des airs de dignité, car on tombe aisément par là dans les formes de l'orgueil. On doit se borner plutôt à éviter tout ce qui est bas et commun, ne jamais s'oublier, observer constamment et soi-même et les autres, ne déroger en rien, ne faire pour les autres ni trop ni trop peu, ne paraître affecté de rien, n'être ému de rien, ne se presser jamais trop, savoir se posséder en chaque moment et conserver ainsi un équilibre extérieur, quels que soient les orages du dedans. L'homme de noble condition peut se négliger parfois, l'homme distingué jamais. Celui-ci est semblable à un homme bien mis, qui ne s'appuie nulle part et que chacun se garde de toucher. Il se distingue des autres, et cependant il ne doit pas demeurer seul, car, de même que dans tous les arts, et dans celui-ci particulièrement, les choses les plus difficiles doivent être faites avec aisance, l'homme distingué doit, malgré toutes les séparations, sembler constamment uni avec les autres, n'être nulle part guindé, être partout à son aise, paraître toujours le premier et ne jamais y prétendre. On voit donc que, pour sembler distingué, il faut l'être en effet. On voit d'où vient que les femmes peuvent en général se donner cet air mieux que les hommes. Pourquoi ce sont les courtisans et les soldats qui parviennent le plus vite à la distinction. Là-dessus, Wilhelm désespérait, peu s'en faut, de son rôle. Mais Serlo l'aida encore, en lui présentant sur chaque détail les observations les plus délicates, et il le forma de sorte qu'à la représentation, il parut, du moins aux yeux de la foule, un véritable prince. Serlo avait promis de lui communiquer, après la représentation, les observations qu'il aurait peut-être encore à lui faire. Mais une fâcheuse querelle entre le frère et la sœur empêcha cette discussion critique. Aurélie avait joué le rôle d'Orsina, comme on ne le reverra peut-être jamais. Ce rôle lui était d'ailleurs très familier, et elle l'avait récité froidement dans les répétitions. Mais, à la représentation, elle ouvrit, on pourrait dire, toutes les écluses à sa douleur personnelle, et son jeu dépassa tout ce qu'un poète aurait pu imaginer dans le premier feu de la composition. Des applaudissements enthousiastes récompensèrent ses douloureux efforts. Mais, après la chute du rideau, on la trouva presque évanouie dans un fauteuil. Serlo avait déjà témoigné son mécontentement de son jeu, qu'il appelait exagéré, et de ce qu'elle avait dévoilé le fond de son cœur aux yeux du public, plus ou moins instruit de sa fatale aventure, et, selon sa coutume, dans la colère, il en avait grincé des dents et frappé du pied. « Laissez-la faire, » dit-il, lorsqu'il la trouva dans le fauteuil entouré des autres acteurs. « Au premier jour, elle paraîtra sur la scène toute nue, et rien ne manquera à son triomphe. »« Ingrat ! Barbare ! » s'écria-t-elle. « On me portera bientôt nue, là où nuls applaudissements ne parviennent plus à nos oreilles. » En disant ces mots, elle se leva et courut à la porte. Sa femme de chambre avait négligé de lui apporter un manteau. Sa chaise à porteur n'était pas là. Il avait plu, et un vent glacial soufflait dans les rues. On essaya vainement de la retenir, car elle était fort échauffée. Elle eut soin de marcher lentement et vantait cette fraîcheur qu'elle semblait respirer avec délice. À peine fut-elle à la maison qu'un enrouement lui ôta presque l'usage de la parole. Mais elle ne dit pas qu'elle éprouvait dans la nuque et le dos une grande roideur. Peu de temps après, sa langue fut comme paralysée, en sorte qu'elle disait un mot pour l'autre. On la porta dans son lit. De prompts secours calmaient un mal tandis qu'un autre se développait. Sa fièvre devint violente et son état dangereux. Le lendemain, elle eut une heure tranquille. Elle fit appeler Wilhelm et lui remit une lettre. « La feuille que voilà, lui dit Aurélie, attendez cette heure depuis longtemps. Je sens approcher la fin de ma vie. Promettez-moi de remettre vous-même cette lettre et que vous punirez l'infidèle des maux que j'ai soufferts en lui adressant quelques reproches. Il n'est pas insensible, et ma mort l'affligera du moins un moment. » Wilhelm prit la lettre, en essayant toutefois de rassurer Aurélie et d'éloigner d'elle la pensée de la mort. « Non, répondit-elle. « Ne m'ôtez pas ma plus chère espérance. Je l'ai longtemps attendue, et je la recevrai avec joie dans mes bras. » Bientôt après, arriva le manuscrit que le docteur avait promis. Aurélie pria Wilhelm de lui en faire lecture. On pourra juger de l'effet qu'il produisit quand on aura pris connaissance du livre suivant. L'orgueil et la violence de notre pauvre amie s'adoucirent tout à coup. Elle reprit sa lettre et en écrivit une autre, dans une disposition d'esprit qui semblait fort douce. Elle pria Wilhelm de consoler son amant si la nouvelle de sa mort l'affligeait, et de l'assurer qu'elle lui pardonnait et souhaitait son bonheur. Dès lors, elle fut très calme et parut occupée uniquement de quelques pensées du manuscrit, cherchant à se les approprier, et demandant à Wilhelm de reprendre par moments cette lecture. Le déclin de ses forces n'était point visible, et Wilhelm la trouva morte, inopinément, un matin qu'il venait lui rendre visite. Son estime pour elle et l'habitude de sa société lui rendirent sa perte fort douloureuse. Aurélie était la seule personne de la troupe qui eut pour lui de l'affection, et depuis quelque temps, il n'avait que trop senti la froideur de Serlot. Il s'empressa donc de remplir le message qui lui était confié. Il désirait s'éloigner pour quelque temps. De son côté, Mélina fut charmée de ce départ. Grâce à la correspondance étendue qu'il entretenait, il s'était d'abord pourvu d'un chanteur et d'une chanteuse qui devaient provisoirement préparer le public, par des intermèdes, au futur opéra. Cela ferait diversion, dans les premiers temps, à la perte d'Aurélie et à l'absence de Wilhelm. Notre ami accueillit avec joie tout ce qui lui facilitait un congé de quelques semaines. Il s'était fait de son message une idée singulièrement importante. La mort de son ami l'avait ému profondément. En la voyant disparaître si prématurément de la scène du monde, il devait se sentir de la haine pour celui qui avait abrégé ses jours et qui avait rempli de tourments cette courte vie. Sans s'arrêter aux paroles de pardon que la mourante avait prononcées, Wilhelm se proposa de faire entendre à l'amant infidèle un blâme sévère en lui présentant la lettre. Et, comme il ne voulait pas se fier au hasard de l'inspiration, il médita un discours, auquel il donna, en le polissant, une forme par trop pathétique. Persuadé qu'il avait réussi à composer un vrai morceau d'éloquence, il fit ses préparatifs de voyage, tout en l'apprenant par cœur. Mignon assistait à ses apprêts et lui demanda s'il allait au nord ou au midi. Et comme elle apprit que c'était au nord, elle lui dit « Dans ce cas, j'aime mieux t'attendre ici ». Elle lui demanda le collier de perles de Marianne et il n'eut pas le courage de le refuser à la chère enfant. Elle avait déjà le fichu. En échange, elle glissa dans le porte-manteau le voile du spectre, quoique Wilhelm lui assura que ce crêpe ne lui était d'aucun usage. Mélina se chargea de la régie et sa femme promit de veiller comme une mère sur les enfants, dont Wilhelm se séparait à regret. Félix était fort gai au moment du départ, et comme on lui demandait ce qu'il voulait qu'on lui apportât, il répondit « Écoute, apporte-moi un père !» Mignon prit Wilhelm par la main, et se levant sur la pointe des pieds, elle imprima sur ses lèvres un baiser vif et cordial, mais sans tendresse, et lui dit « Meister, ne nous oublie pas et reviens bientôt !» Laissons maintenant notre ami se mettre en voyage, poursuivi de 1000 pensées et de 1000 sentiments, et transcrivons ici, pour terminer, quelques strophes que Mignon avait plusieurs fois récitées avec beaucoup d'expression et que tant d'événements étranges nous ont empêchés de citer plus tôt. Ne me dis pas de parler, dis-moi de me taire, car le secret est un devoir pour moi. Je voudrais te dévoiler toute mon âme, mais le sort ne le veut pas. À l'heure marquée, la course du soleil chasse la sombre nuit et il faut qu'elle s'éclaircisse. La roche dure ouvre son sein et ne refuse pas à la terre les sources profondes. Chacun cherche le repos dans les bras d'un ami et le cœur peut s'y répandre en plainte. Mais un serment a scellé mes lèvres et un Dieu seul peut les ouvrir. »